This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا هادو جلوبي.
From CNN Radio 7.
من راديو داشا.
O Brasil quer se filmar.
Turquia, fotora,
Slava, Rússia.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui en Tunisie, au lendemain des législatives. Analyse avec Thibaut Cavaillès du sens tunisien du mot laïque. En Afrique du Sud, portrait d'une activiste anti-sida. Lisa Fabian nous la présente tout à l'heure. 18h55, une histoire dans le monde. Anthony Bélanger en Grande-Bretagne. Et tout de suite, direction la Turquie.
France Inter, un jour dans le monde. Nicolas Demorand.
L'image était saisissante, celle des djihadistes de l'État islamique hissant leur drapeau noir sur une colline de Kobané. Le contre-champ de cette image était lui aussi saisissant, les militaires et les blindés turcs, l'arme au pied, ne faisant rien pour empêcher la ville de tomber, mais plus encore, verrouillant la frontière pour que les Kurdes n'aillent pas soutenir les leurs. Et puis il y a les mots, après les images, ceux de Joe Biden par exemple, le vice-président des États-Unis, des mots prononcés à Harvard, je les cite. Les Turcs ont fourni des centaines de millions de dollars et des dizaines de milliers de tonnes d'armes à quiconque affronterait Bachar el-Assad. Mais ce sont Al-Nusra, Al-Qaïda et les djihadistes étrangers qui en ont profité. Biden soulignant par ailleurs que le plus grand problème de la coalition anti-EI était les alliés des États-Unis, dont la Turquie, avant de s'excuser platement pour l'ensemble de ses propos. Depuis le début des bombardements de la coalition, il y a de nombreuses interrogations, voire une perplexité totale sur la position turque, pays membre de l'OTAN, pays membre de la coalition. On va donc en débattre ce soir avec Marc Semo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du service étranger de Libération avec Bernard Guetta. Bonsoir.
Bonsoir.
France Inter, tous les matins à 8h17 avec Ariane Bonzon. Bonsoir.
Bonsoir.
Slate.fr et Jérôme Bastion, correspondant de France Inter à Istanbul, en Turquie. Bonsoir Jérôme. Avant de lancer le débat, une question pour vous qui vivez sur place. La presse turque, dans toutes ses composantes, a-t-elle le sentiment que le turc bashing est le dernier phénomène à la mode en Europe et aux États-Unis?
Bonsoir, oui, très certainement, hein, car les Turcs se sentent aujourd'hui injustement accusés de ne pas aider, premièrement, les Kurdes de Kobané, alors qu'ils les considèrent comme des terroristes, parce que c'est le groupe cousin ou frère du PKK, la rébellion kurde de Turquie. Ils se sentent aussi incompris dans leur lutte contre le régime de Bachar el-Assad, qui semblait une cause internationale il y a encore un an à peine, mais qui est aujourd'hui abandonnée. Et ils se sentent enfin injustement accusés de soutenir les djihadistes de l'État islamique alors qu'ils affirment verrouiller leurs frontières et avoir mis l'organisation État islamique sur la liste des organisations terroristes depuis un an maintenant. Et puis ils sentent bien qu'on veut les pousser à se jeter un peu seuls dans la bataille, dans une opération terrestre en l'occurrence, contre les troupes des islamistes, donc contre les troupes des djihadistes de l'autre côté de la frontière, sans que les alliés de la coalition ne s'y jettent aussi. Donc ils freinent autant qu'ils peuvent.
Ouais. Et il y a du ressentiment, Jérôme ? Il y a du ressentiment en Turquie ?
Il y a certainement du ressentiment, non seulement contre les Américains, mais ça c'est pas nouveau, mais d'une manière plus large, contre la coalition, effectivement, à part la France peut-être, qui a montré un tout petit intérêt pour une idée que propulse la Turquie, c'est l'idée d'une zone tampon de l'autre côté de sa frontière, côté syrien, pour empêcher, on ne sait pas exactement à quoi elle pourrait servir d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la seule chose. La France est le seul pays qui soutient vaguement cette idée que la Turquie même semble avoir en fait aujourd'hui abandonnée, parce que surtout les États-Unis ont dit que ça n'était pas du tout dans leurs objectifs et que c'était difficilement réalisable.
Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Marc Semo, est-ce que la Turquie est le maillon faible de la coalition ?
Peut-être, ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'Arabie Saoudite, le Qatar et d'autres. Mais pour revenir sur ce que disait Jérôme Bastion, il y a effectivement beaucoup de points communs entre la position de la France et de la Turquie sur le dossier syrien. Et pas depuis simplement ces derniers jours à propos de la zone tampon. La France et la Turquie sont les deux seuls pays qui considèrent aujourd'hui la coalition nationale syrienne comme le seul représentant légitime du peuple syrien. Ce sont les deux pays qui exigent comme condition préalable à tout le départ de Bachar el-Assad. Et ça, c'est une position qu'ils ont prise, la Turquie un peu tardivement, en 2011, en juin 2011. Au début, la Turquie, comme la France, avait misé en espérant que Bachar pourrait être un peu réformateur. Davutoğlu, qui était ministre des Affaires étrangères, qui maintenant est le Premier ministre, avait une très belle formule. Il disait on espérait que Bachar el-Assad serait Gorbatchev. Il s'est montré être Milosevic. Et donc, depuis juin 2011, la Turquie est à fond contre le régime de Bachar el-Assad. Et c'est le point commun. Et c'est pour ça qu'ils ont, pendant des mois, comme les Occidentaux, soutenu ceux qui se battaient contre Bachar. Donc, y compris les islamistes. La différence, c'est que les autres ont rapidement pris leur distance en comprenant le danger. La Turquie a continué à les soutenir. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'elle a 800 km de frontière, et que d'une certaine façon, elle est aussi coincée vis-à-vis de l'État islamique, puisqu'elle craint que si elle ouvre le conflit ouvert avec l'État islamique, elle ait le terrorisme sur son sol. Il y a des milliers de jeunes Turcs, on ne sait pas, 1000, 2000, 3000, qui ont été se battre avec les groupes djihadistes, Al-Nusra ou l'État islamique. Et c'est ce choc en retour qui, aujourd'hui aussi, fait très peur à la Turquie.
Alors, je vous repose malgré tout, Marc, la question. Est-elle le maillon faible de la coalition ?
C'est aujourd'hui un pays particulièrement coincé, parce que toute forme d'intervention de la Turquie, encore plus avant dans le conflit syrien, aurait dit un immédiat retour de flamme en Turquie même, parce que ce conflit réallume les conflits latents de la société turque, juste en deux mots. C'est le conflit entre laïcs et islamistes, le conflit entre Turcs et Kurdes, et, last but not least, le conflit entre sunnites et alévis. Les alévis turcs ne sont pas tout à fait comme les alaouites syriens, même si au sud de la Turquie, dans la province limitrophe de Hatay, c'est la même chose, mais c'est aussi une secte progressiste issue du chiisme. Et donc, le risque pour la Turquie est que le conflit s'importe à l'intérieur du pays, avec toutes les conséquences dévastatrices qui pourront en découler, comme l'a rappelé l'International Crisis Group dans un récent rapport.
Alors voilà donc pour quelques éléments de paysage. Même question à nos autres intervenants. Maillon faible de la coalition, la Turquie, Ariane Bonzon.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marc. Juste tout à fait dans la même lignée. Effectivement, quand on parle avec des officiels français, ils vous disent on est sur la même longueur d'onde. Ils sont raccord chrome avec les Turcs. Hein. Sauf effectivement sur Kobané, où ils ont fait un peu entendre leurs différences, mais sur le reste, ils sont là. Et l'une des raisons pour lesquelles la France a dit nous n'interviendrons pas en Syrie, c'est justement parce qu'ils disent on ne va pas intervenir contre l'État islamique et pas contre Bachar al-Assad. Donc ça, pour ça, c'est la même position. En revanche, on peut se poser des questions sur le soutien de François Hollande. Enfin, François Hollande a dit qu'il soutenait le projet de zone tampon et de zone de non-survol. Alors, d'abord, comme le disait Marc, ça ne va sans doute pas se faire. Est-ce que c'est une façon, alors que le lendemain, il y avait une réunion ici à Paris avec des ministres des Affaires étrangères turcs, une façon de se mettre bien avec eux, ou est-ce que c'est plus profond? Je ne suis pas sûre qu'ils aient bien pesé ce que voulait faire le gouvernement turc avec cette zone tampon. Il veut y mettre sans doute les réfugiés. Les Kurdes vous diront, il veut ré-arabiser cette zone qui est kurde. Et puis, ils veulent éventuellement faire des camps d'entraînement pour l'armée libre de Syrie. Donc, il y a cette idée-là derrière. Donc, c'est important. Et ça, je ne suis absolument pas sûre que, on revient à votre question sur le maillon faible, que la coalition soit d'accord avec ce projet.
Alors, je vais la poser à Bernard Guetta et l'élargir aussi. Maillon faible de la coalition, maillon faible de l'OTAN, point d'interrogation.
Écoutez, commençons par la coalition. La coalition n'en est pas une. C'est une alliance de circonstances contre un ennemi commun, l'État islamique. Mais aucun, je dis bien aucun, des pays membres de cette coalition militaire, purement militaire et non pas politique, ne poursuit les mêmes objectifs dans la région. On ne va pas énumérer les objectifs des uns et des autres parce qu'il nous faudrait trois quarts d'heure, mais croyez-moi sur parole ou croyez-nous sur parole, chacune des puissances impliquées dans cette coalition
a un agenda
différent sur les frontières, leur pérennité ou leur remodelage, sur le soutien qui aux chiites, qui aux sunnites, qui à tel sunnite contre tel sunnite, etc.
Bon, mais alors revenons à Kobané. Alors, excusez-moi, pour dire les choses simplement, revenons à Kobané, une ville qui a été décrite comme une ville symbole, comme une ville martyre. On a des chars turcs, des militaires turcs, pays membres de la coalition, pays membres de l'OTAN, qui voient des combats sous ses yeux à une centaine de mètres et qui ne fait rien. D'où ma question que je vous repose une huitième fois. Sont-ils le maillon faible de la coalition et de l'OTAN? Pourquoi n'interviennent-ils pas?
Mais vous posez mal la question.
La réponse est extrêmement simple.
Alors, Marc Semo, puis Bernard Guetta.
La réponse est extrêmement simple. Les Turcs ne veulent pas à leurs frontières, non pas d'un Kurdistan. Ils ont déjà, depuis plusieurs années, d'excellentes relations avec le Kurdistan irakien qui, de fait, est indépendant de Bagdad depuis 1991. Le problème pour les autorités turques aujourd'hui, c'est ce qu'ils considèrent être le risque d'un PKK-istan. Je m'explique. Le PKK, c'est ce groupe de rebelles turcs kurdes qui mène la lutte armée contre Ankara depuis 1984, dont le parti kurde syrien, PYD, celui qui se bat à Kobané, est le parti frère. Un parti, par ailleurs, qui a été longtemps ambigu vis-à-vis du régime d'Assad, comme d'ailleurs le PKK en son temps. Öcalan, qui est le leader du PKK, a vécu en Syrie sous la protection de Assad, père. Voilà. Donc, pour les Turcs, ils l'ont dit au moment où le Parlement a voté le feu vert qui permet l'envoi de soldats turcs, hein, de nouveau, c'est les deux terrorismes, le terrorisme islamique et le terrorisme kurde, est équivalent. Là où l'histoire est extrêmement ambiguë, c'est qu'en même temps, les Turcs ont commencé depuis 2 ans des négociations directes avec Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis 1999, pour le processus de paix. Et Abdullah Öcalan lui-même, il y a eu ces... quand il n'y avait pas des manifestations de protestation kurde contre le non-soutien à Kobané, etc., il y a eu 40 morts. Ensuite, les choses sont retombées après que Öcalan en personne soit intervenu du fond de sa cellule. Et Öcalan dit « le processus de paix avance, le processus de paix va de l'avant ». Et donc, il y a ce processus de paix qui avance. Et Erdogan, c'est un de ses grands desseins. Et donc, il est probable que d'une manière ou d'une autre, un compromis sera trouvé.
Alors, avant de repartir voir Jérôme Bastion à Istanbul, je laisse la parole à Bernard Guetta. J'ai le souvenir de l'un de vos éditoriaux, Bernard Guetta, sur France Inter, sur cette même antenne, un matin, disant que ce qui se passait à Kobané était un scandale absolu.
Je vous le répète.
Et vous me le répétez. Oui. Alors donc, en quoi ma question est-elle mal posée?
Mais parce que ce n'est pas une question de maillon faible ou pas de la coalition. Parce que, encore une fois, cette coalition coalise des intérêts à moyen et long terme, divergent, même si sur le court terme, il y a convergence. Qu'est-ce qui se passait à Kobané? Parce que la situation a considérablement évolué depuis 8-10 jours.
Oui.
Depuis 8-10 jours, on peut espérer que Kobané tienne. Apparemment, Kobané est en train de tenir et tient de mieux en mieux. On verra, souhaitons-le, croisons les doigts. Mais qu'est-ce qui se passe à Kobané? Je poursuis ce que disait Marc très clairement à l'instant. Les Kurdes de Syrie, ou du moins leurs organisations politiques et militaires, sont très très proches du PKK turc. PKK turc qui, pendant plus de 20 ans, a mené une véritable guerre civile par les moyens de la terreur, du terrorisme, des attentats, des assassinats d'officiels turcs, etc., etc., pour affirmer l'autonomie culturelle, éventuellement l'indépendance, mais en tout cas une autonomie culturelle et politique du Kurdistan à l'intérieur de la Turquie. Le PKK a été considéré jusqu'au moment où les autorités turques ont ouvert des négociations solides avec lui, il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus.
Deux ans.
Il y a seulement 2 ans, on a l'impression que c'était il y a 20 ans déjà. Jusqu'à ce moment-là, c'était véritablement l'adversaire principal. Or, il se trouve que contrairement
à sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne,
y compris l'Union européenne et les États-Unis. Or, contrairement aux Kurdes d'Irak qui ont développé des relations commerciales et politiques très confiantes avec la Turquie, les Kurdes de Syrie sont très proches, je dirais, de l'ancien PKK, celui qui n'avait pas encore ouvert les négociations avec la Turquie. Et donc, pour la Turquie, c'est très simple. Il ne fallait pas que Kobané soit libéré par ces Kurdes-là. Ces Kurdes-là qui sont l'ennemi de l'État turc, ou du moins considérés comme tel, parce qu'à ce moment-là, ça donnait un avantage politique et moral considérable à ces Kurdes-là, et cela pouvait réveiller, du moins c'était la crainte des dirigeants turcs, un indépendantisme des Kurdes de Turquie. Voilà, c'est clair, c'est simple. Ça s'appelle la raison d'État.
Ça s'appelle la raison d'État. Et effectivement, Jérôme Bastion, à Istanbul, comment recevez-vous l'ensemble de ces échanges?
Oui, vous posiez la question du maillon faible de la coalition ou de l'OTAN. Pour les États-Unis, c'est certain que la Turquie n'est pas un allié très loyal aujourd'hui. C'est d'ailleurs sans doute pour ça que Joe Biden vient en Turquie dans quelques jours pour clarifier cette position un peu ambiguë. Car le Parlement turc a donné son aval, il y a près d'un mois, à un déploiement de soldats turcs en Syrie et en Irak si besoin, et au déploiement ou au transit de troupes étrangères pour aller guerroyer en Syrie et en Irak. Or, Ankara continue de refuser l'autorisation d'utiliser ces bases aériennes, au moins celles où il y a déjà des avions américains, celle d'Incirlik près d'Adana, pour ces bombardements des positions de l'État islamique, ce qui complique forcément les opérations, les frappes aériennes. Mais Ankara refuse de donner son aval à tout bombardement s'il n'y a pas déploiement de troupes au sol. C'est aussi simple que ça. Donc, il complique la tâche des États-Unis, qui sont, c'est vrai, un petit peu seuls sur cette opération. Et on l'a vu tout récemment avec le parachutage d'armes venues d'Irak du Nord et déposées à côté de Kobané par l'aviation américaine. L'aviation américaine a dû contourner le territoire turc pour cette opération de sauvetage, pour empêcher que Kobané tombe, alors que les Turcs, vous le disiez tout à l'heure, eux, regardent, mais refusent de bouger, de tirer le moindre coup de canon.
Alors, est-ce qu'on peut dire au moins point que le plus important dans l'agenda turc, c'est d'éviter la constitution d'un Kurdistan, quelle que soit sa forme, plutôt que de lutter contre l'organisation État islamique. Marc Semo.
Non, ce que veulent les Turcs, c'est éviter un PKKistan au sud. Et c'est pour ça, par exemple, qu'ils ont appelé et fait venir des Peshmerga, c'est-à-dire des combattants kurdes irakiens, qui sont les Kurdes amis d'Erdogan, qui sont dans ce grand projet. Erdogan veut une solution de la question kurde, politique, à l'intérieur de la Turquie et à l'extérieur, parce que des Kurdistans, mais au pluriel, alliés, économiquement liés à la Turquie, qui est leur seul débouché vers l'extérieur, est à la fois une zone tampon, à la fois une capacité de projection, à la fois une garantie de fourniture d'hydrocarbures, puisque le Kurdistan d'Irak est extrêmement riche en pétrole. C'est là-dessus le premier point pour les Turcs. La zone tampon, ils ne veulent pas y aller seuls, mais l'intérêt de la zone tampon pour eux, c'est effectivement de pouvoir mettre les choses sous contrôle et d'une certaine façon de permettre aux autres partis kurdes syriens, parce que le PYD n'est pas le seul parti kurde syrien. Il a reçu le pouvoir de Bachar el-Assad quand l'armée a quitté, syrienne a quitté le nord de la Syrie. Il a, plus ou moins, par des moyens pas très démocratiques, mis au pas toutes les autres forces politiques syriennes, kurdes. Et donc, l'idée des Turcs, c'est de faire ressortir les autres partis kurdes syriens qui sont, eux, proches de l'armée syrienne libre. Et c'est aussi pour ça que la Turquie veut faire passer des combattants de l'armée syrienne libre pour venir aider les combattants de Kobané.
On a reçu ici même à ce micro Ahmet İnsel, intellectuel turc, qui nous disait que son pays avait 1000 fois plus peur des Kurdes que des djihadistes de l'EI. Ariane Bonzon, quel est votre sentiment sur cette analyse ?
Peut-être ont-ils 1000 fois plus peur, mais ils devraient avoir aussi peur quand même des djihadistes, parce qu'il y a de plus en plus des cellules dormantes. La frontière est 800 km, mais extrêmement poreuse. Là, je suis allée récemment sur la frontière. Il y a des villages qui sont... On se demande qui sont dans ces villages. Il vaut mieux pas y trop aller voir de près. Donc, la peur des djihadistes va commencer à monter. Simplement, elle est peut-être moins visible. Et c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que c'est... D'une certaine manière, si vous voulez, il y a une attente de la part de... On attend de l'organisation État islamique qu'elle fasse le boulot qu'on aimerait bien faire en Turquie. C'est-à-dire se débarrasser du PKK ou se débarrasser de ce mouvement kurdiste ce qui est très important, c'est que idéologiquement, ce ne sont pas du tout les mêmes. Le PYD et le PKK ne sont pas du tout les mêmes que le Kurdistan du nord d'Irak, avec lesquels Erdogan est allié, avec lesquels qui sont devenus presque une petite dépendance de la Turquie économiquement. Et d'ailleurs, non seulement Erdogan a donné le feu vert pour faire entrer des membres de l'armée libre de Syrie, mais il a donné le feu vert pour 100 ou 200 Peshmerga du Kurdistan d'Irak. Or, ces Peshmerga, ça faisait longtemps qu'ils voulaient aller se battre au nord de Syrie. Et le PYD, les Kurdes de Syrie, ne voulaient pas gens du nord. Donc, si vous voulez, c'est un cadeau empoisonné là qu'il est en train de leur faire. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben oui, enfin, il est solidaire, etc. Mais il laisse passer. C'est pas cela que voudrait le PYD. Le PYD voudrait les combattants du PKK, qui sont leurs frères, en Turquie, par exemple.
Et moi, je connaissais la kremlinologie, qui était un art très complexe. Je découvre que l'erdoganologie est un art tout aussi raffiné. J'entends tout de même dans ce que vous venez de dire que la Turquie laisserait ou penserait faire le sale boulot, entre guillemets, par l'État islamique. Vous l'avez dit, Ariane Bonzon, à l'instant.
Il y a un sentiment dans la population qu'au fond, si l'organisation de l'État islamique pouvait se liquider un petit peu. C'est pour ça qu'il y a une sorte de tolérance dans le sud-est de la Turquie vis-à-vis de l'organisation de l'État islamique. Et c'est pour on n'en parle jamais.
Je tombe de ma chaise.
Pour ça aussi qu'il y a un mouvement qui s'appelle l'Hezbollah, qui a pris de plus en plus qui existe depuis les années 70, qui avait été arrêté, on lui avait coupé un peu la tête. Puis en 2003, le parti au pouvoir, l'AKP, a fait une amnistie générale et a libéré tous ces types du Hezbollah turc, qui n'a rien à voir avec le Hezbollah libanais, qui est un mouvement kurde. Ce sont des Kurdes qui sont des islamistes durs et qui eux aussi veulent, si vous voulez, se débarrasser du PKK. Donc il y a une situation dans le sud-est de la Turquie qui est extrêmement volatile et beaucoup de gens ont peur d'une guerre civile là-bas. En cela, Ahmet İnsel avait parfaitement raison.
Mais alors j'aimerais qu'on vienne sur ce que... Justement, et vous demander de réagir à ce que vient de dire Ariane Bonson. Moi, naïvement, bêtement, je pensais que la Turquie était membre de l'OTAN et membre d'une coalition visant à détruire l'État islamique et non pas un pays qui se dit tiens, si au passage l'État islamique pouvait nous permettre d'éradiquer un certain nombre de Kurdes, ce serait pas mal, on n'aurait pas à le faire. Marc Sémo.
Au-delà de l'éradication d'un certain nombre de Kurdes, la vraie question...
Enfin, au-delà de l'éradication, non, mais la vraie c'est question... quand même pas une, non, mais ça, un c'est petit assez... détail.
Je pense que là-dessus, c'est un peu de la... un procès en sorcellerie, mais la vraie question, c'est que l'État islamique...
Non, mais c'est un procès en sorcellerie ou c'est une information ?
La vraie question, c'est que l'État islamique, en tant que groupe sunnite, radical, djihadiste, a, malgré tout, des connexions avec, non seulement des gens en Turquie, dans une partie de l'islam radicalisé en Turquie, en marge de l'AKP au pouvoir.
Saoudite.
Voilà, ils sont liés aussi comme ils en ont d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Mais c'est encore plus complexe parce qu'ils en ont aussi dans une partie, d'une certaine façon, de l'AKP qui, à défaut, ils ne sont pas liés. Mais
AKP, parti d'Erdogan.
Le parti d'Erdogan, le parti de la justice et du développement, qui, disons, les comprennent. Pour prendre une comparaison, c'est un peu l'album de famille, comme disait le Parti communiste italien à propos des Brigades Rouges. Et on avait vu déjà ce même phénomène qu'évoquait Ariane tout à l'heure avec le Hezbollah turc, hein, qui sont des Kurdes islamisés ultra-radicaux.
Sunnites, eux, pas chiites.
Pas chiites du tout. Qui, eux, par exemple, avaient fait les attentats d'Istanbul en 2003 contre le consulat britannique et l'HSBC.
Photo de famille, vous venez de dire.
Dans les mêmes organisations de jeunesse que certains des gens qui... dans les années 70, ensuite, ont donné l'AKP. C'est-à-dire, une partie a choisi la voie du djihad, d'autres ont choisi la voie d'un islam politique, mais il y a malgré tout des liens. En plus, les Turcs, et je conclue là-dessus, on considère que ce qui se passe en Irak a été dû à la politique, entre guillemets, sectaire, c'est-à-dire pro-chiite, dogmatique de Maliki, et que donc ils disent, voilà, il faut résoudre le problème de fond. Et les Turcs ont toujours eu des liens avec une partie des sunnites irakiens, y compris les plus radicaux, des liens un peu bizarres, qui ont permis, par ailleurs, aux Turcs, par exemple, ces dernières semaines, de libérer les 46 otages turcs qui avaient été pris à Mossoul par l'État islamique lors de son offensive en juin. Et donc, dans ce monde sunnite, la Turquie, comme par ailleurs l'Arabie Saoudite, je le répète, et le Qatar, ont directement ou indirectement des contacts, des gens avec lesquels ils causent.
Des gens de l'État islamique avec lesquels ils causent.
Ou des gens qui, avec lesquels ils causent et qui... sont des gens de l'État et qui eux-mêmes causent à des gens de l'État islamique. C'est à l'oriental, c'est pas nécessairement direct.
Mais ce qui veut dire qu'il y a, même sous forme indirecte, un dialogue politique entre certaines branches.
Un dialogue politique, non, mais un dialogue qui a permis, en tout cas, par exemple, de faire libérer les 46 otages.
Bernard Guetta, personnellement, j'apprends énormément de choses. Vous êtes turcologue averti.
Distingué.
J'apprends énormément de choses ce soir. Bernard Guetta.
Moi, je voudrais vous inviter à remonter sur la chaise dont vous êtes tombé. D'effroi. Parce qu'il va falloir vous accrocher à votre siège dans les mois et les années qui viennent pour la raison que nous assistons au Moyen-Orient, certainement, mais dans bien d'autres régions du monde, au retour en force du choc des raisons d'État dans ce qu'elles ont de plus monstrueux. Cynique, manipulatoire, abominable, absolument abominable. Mais je vous invite à une autre chose. Ne croyez pas que dans cette affaire du choc des raisons d'État au Proche-Orient, dans le Proche-Orient actuel, la Turquie soit la seule puissance cynique.
Non, mais
l'Iran,
attendez. Qu'on parle d'elle. Ce
non,
soir.
Bien sûr. Il faut relativiser, remettre dans un paysage général. L'Iran est 100 fois plus cynique dans cette affaire que ne le sont la Turquie et l'Arabie Saoudite réunies. L'Arabie Saoudite l'est au moins autant que la Turquie. Le Qatar, n'en parlons pas. Les chiites irakiens, l'abomination de l'abomination. Et on pourrait continuer la liste, y compris... en prenant les États-Unis, les Européens et bien d'autres pays qui interviennent directement ou indirectement dans ce conflit. Nous sommes sortis d'une longue période où nous nous racontions, en partie à tort, en partie à raison, que quelques principes gouvernaient encore le monde ou tentaient encore de le faire, eh bien... Nicolas, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
C'est fini.
Cette période est révolue. Nous sommes à nouveau dans la période des raisons d'État.
Non, mais je pensais simplement que l'organisation État islamique incarnait le mal absolu, et que le mal absolu était combattu par des frappes aériennes et par des Kurdes au sol. Je m'aperçois que, de manière directe ou indirecte, les gens qui sont sans cesse combattre se parlent.
Mais la police secrète du Tsar, manipulait les terroristes à l'époque.
Même avec l'organisation État islamique, c'est normal,
Ariane
Monzon.
Mais on parle toujours avec son ennemi de façon, par des canaux secrets, ça, on peut pas.
Tout en lui faisant la guerre.
Mais bien sûr, dans tous les conflits, il y a des contacts politiques.
Par exemple, il y a une zone en pleine Syrie, une zone qui est une propriété turque, où il y a un tombeau
du fondateur de la dynastie ottomane.
Pardon, je ne suis pas respectueuse. Eh bien, c'est un territoire tenu par l'État islamique. Or, il a fallu faire la relève des militaires qui tenaient cette zone. Il a bien fallu négocier avec eux. Il y a eu vous pouvez me voir, il y a une vidéo qui montre tous les camions turcs qui vont, et c'est une zone de l'État islamique. Voilà.
Et pour bien souligner les choses, les Turcs ont dit que si on touchait aux tombeaux et aux soldats turcs, il y en a une centaine qui sont là-bas, et ben là c'est
Casus belli, et la
Turquie intervient.
Jérôme Bastion, à Istanbul, les choses sont aussi clairement dites que ce que nous disons là ce soir au micro?
Ou alors elles sont au moins aussi compliquées, puisqu'on voit ici régulièrement dans les médias...
Excusez-moi Jérôme, mais compliqué, je vous le confirme. Hein.
on voit régulièrement des contacts physiques, filmés, documentés, des soldats turcs avec les combattants du djihad de l'État islamique, hein, un peu tout le long de la frontière, parce que cette frontière qui fait quasiment 900 km est contrôlée sur plus de 100 km, plusieurs centaines de kilomètres par les islamistes. Et donc peut-être qu'aujourd'hui ils ne sont plus aidés directement par la Turquie ou par des gens en Turquie, qu'ils ne reçoivent plus d'armes par là, mais enfin on voit régulièrement, je vous dis quotidiennement, des contacts de ces djihadistes qui viennent sur le bord de la frontière, discuter avec les soldats turcs. Pourquoi faire? On ne sait pas exactement. Il y a beaucoup de rumeurs sur des soutiens qui continueraient, qui sont encore une fois parfois filmés. Il y a des drôles de convois qui circulent, mais en tout cas, il y a des contacts.
Il y aurait quoi dans ces drôles de convois pour aller au fond de la rumeur, puisqu'il y a des images en plus?
Ben, ce qu'affirment les Kurdes, c'est que ce sont des armes qui passent parfois par camion ou parfois par train. Alors, c'est difficile à vérifier, bien entendu, et Ankara s'en défend fortement, mais en tout cas, il est certain qu'il y a au moins des hommes, des militants islamistes qui traversent tranquillement la frontière, beaucoup plus facilement, eux, que les Kurdes ne peuvent le faire, puisque la ville de Kobané est sous embargo depuis un mois, désormais.
Alors, il nous reste malheureusement une minute pour vous poser la dernière question. La Turquie dans l'Union européenne, Marc Semo? Vu tout ce qui vient de se dire là,
elle est en train de jouer sa crédibilité, et pour le moment elle la joue assez mal dans ce conflit. C'est pas le premier manquement, il y avait déjà pendant le conflit libyen. Disons, la Turquie est en train de mener de plus en plus sa propre politique, et cela ne va pas aider à une future intégration dans l'Union européenne.
J'admire votre sens de l'euphémisme, Marianne Bonzon. Turquie dans l'UE,
je vous suggère de poser la question à monsieur Erdogan, qui sera vendredi à Paris.
Eh ben écoutez, on essaiera de l'inviter. Bernard Guetta,
moi je vous dirais tout simplement que ce n'est plus d'actualité depuis un paquet d'années. À mes yeux, c'est dommage. À mes yeux, c'est une erreur historique. On n'a pas le temps de le développer, mais en tout état de cause, ce n'est plus d'actualité.
L'histoire ne replace pas les plats.
Oui, malheureusement. Jérôme Bastion, la Turquie dans l'UE, on en parle encore là-bas ou pas?
On en parle de moins en moins, c'est certain, depuis plusieurs années, sauf que peut-être que la Turquie aujourd'hui se trouve un petit peu isolée sur cette question régionale-là, et peut-être qu'elle est en train d'essayer de revenir un petit peu au contact des Européens. Il y a la visite donc de M. Erdogan à Paris, le ministre des Affaires européennes est déjà en France, et il visite plusieurs pays européens en ce moment. La Turquie s'éloigne non seulement à cause de ses problèmes avec ses voisins, de ses problèmes régionaux et internationaux, mais aussi sur le plan des valeurs, parce qu'en ce moment, ce qui se passe en Turquie est très très préoccupant, notamment sur la question de la laïcité, de l'éducation et bien d'autres aspects similaires.
Merci à tous les quatre. Je pensais avoir quelques réserves de naïveté supplémentaires. Je les ai perdues ce soir. Grâce à vous, Marc Semo de Libération, Bernard Guetta, France Inter, Ariane Bonzon, Slate et Jérôme Bastion, notre correspondant en Turquie. À suivre, tentative de définition du mot laïcité en Tunisie. Vous allez voir, c'est pas facile. D'ici là, Pax Terderi. France Inter, 18h44. There's a shopping centre where your heart belongs.
trees and cocktails in the sun. Sheer, see glimpses, something very special. Like that, she comes home. All there is you and me right now. Standing underneath these trees right now. Sheer, see glimpses, something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
Sitting on
the tree. Does she think she's special? Very, very special.
Sitting.
This lonely trail of tears to where these artificial trees appear. Sheer, see glimpses of something very special. Like that, she comes home. Does she think she's special? Very, very special.
Sitting.
She thinks she's special, very, very special.
Baxter Dury, merci d'écouter France Inter. À 18h47, on file à Tunis.
Un jour dans le monde. Sur France Inter.
En direct de Tunisie, notre correspondant Thibaut Cavaillès. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir Nicolas.
Les législatives ont donc eu lieu, les Tunisiens ont voté dimanche. Et comme les islamistes d'Ennahda ont admis leur défaite hier, du coup on en a conclu que le parti gagnant, Nida Tounes, était laïque. C'est si simple que ça ?
Aïe, aïe, aïe, non, c'est pas si simple, hein, Nicolas. Ici, la laïcité, en fait, c'est un concept qui ne s'applique pas vraiment, hein, surtout lorsqu'on entend avec son acception française. Et je peux vous dire que les Tunisiens, depuis quelques jours, réagissent beaucoup. Ils suivent la presse française sur Internet. Et de voir Nida Tounes qualifiée de laïque, ça les fait sursauter. En fait, il faut comprendre que laïcité, ici, c'est plus ou moins synonyme d'islamophobie. Les gens pensent tout de suite à l'interdiction du voile en France. Au parti Nida Tounes, on préfère le terme de séculier à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire comme aux États-Unis, où l'État ne s'immisce pas dans le religieux, mais clame « in God we trust » ou impose de jurer sur la Bible lors d'un procès. Il ne faut pas oublier, hein, qu'en Tunisie, la constitution qui vient d'être votée, Nicolas, démarre par un nom, au nom de Dieu clément et miséricordieux, et que le premier de ces chapitres consacre l'islam comme religion de la Tunisie. Donc le risque, en fait, ce que déplorent les gens ici, c'est que les Occidentaux croient que le projet sociétal de Nida Tounes, eh bien, ce soit d'interdire le voile à l'école ou dans la fonction publique. Et je vous assure que ce n'est pas du tout le cas.
Mais alors, comment on qualifie ce parti, du coup ?
Eh bien, c'est le problème, hein. Nida Tounes, c'est un rassemblement qui s'est fait contre Ennahda, sans forcément d'idéologie politique derrière, un programme économique seulement. La formation rassemble des figures de tous horizons. Son secrétaire général, Tayeb Bakouche, considère Nida Tounes comme centriste, mais qui peut avoir des interférents droite-gauche.
Bah avec ça, on est bien avancé. Il faut bien trouver un terme. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des démocrates ?
Bah, ça ne serait pas très précis. Et d'autre part, d'autres partis le sont.
Donc, des destouriens, des néo-destouriens, qu'est-ce qu'ils sont ?
Ben c'est tentant, mais d'une autre, là, je ne pense pas que ça parle trop aux auditeurs. Les néo-destouriens, il faudrait expliquer à chaque fois, c'est en référence au parti de Bourguiba. Et puis d'autre part, il y a le leader de Nida Tounes, Béji Caïd Sepsi. Lui, il assure que son parti n'est pas héritier de ce mouvement-là.
Alors, est-ce qu'ils sont modernistes ?
eh bien, ça aurait été bien sous Bourguiba, mais là, c'est un peu dépassé. Et puis, vous avez des conservateurs au sein de Nida Tunis.
Et donc, il faut conclure quoi ? Qu'ils sont juste anti-islamistes ?
Ben, c'est ce qui semble être le mieux, avec un souci de plus, je suis désolé Nicolas, mais pour obtenir une majorité à l'Assemblée, Nida Tunis va devoir faire une coalition. Et il se pourrait que les islamistes d'Ennahda soient inévitables. Alors, allez expliquer aux auditeurs français que les anti-islamistes de Nida Tunis se sont alliés aux islamistes d'Ennahda, ça va être un peu compliqué. Disons que tant que la coalition n'est pas faite, eh bien, il nous reste quelques semaines, utilisons ce terme d'anti-islamiste. D'ici là, nous trouverons autre chose. Et je vous propose par exemple la traduction d'un terme arabe utilisé en Égypte notamment, les médaïnes, c'est-à-dire les civilistes, c'est-à-dire pour un état civil et non religieux.
Bon, on continue ce débat sémantique avec vous dans les jours et les semaines qui viennent. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication de texte. Direction l'Afrique du Sud. À 18h50, la Fabrique du Nouveau Monde avec toute cette semaine donc les correspondants de France Inter. L'Afrique du Sud à la rencontre de Pindile Sitole-Spong. C'est une jeune femme de 25 ans, comme toutes les autres, à ceci près qu'elle est née avec le sida. Aujourd'hui, cette jeune femme activiste essaie de changer la perception de la maladie en utilisant notamment Facebook, Twitter ou encore à travers son projet Rebranding HIV. Elle s'attaque aux clichés, aux tabous, pour aider les jeunes séropositives à vivre mieux, à parler plus ouvertement de leurs difficultés. Selon elle, c'est là que commence la prévention. Son portrait est signé Lisa Fabian à Johannesburg.
Tout commence il y a 6 ans lorsque Pindile Sitole-Spong découvre qu'elle est séropositive. La jeune fille n'a connu qu'un seul partenaire dans sa vie. C'est donc un choc et surtout une immense incompréhension. Mais peu à peu, elle va reconstituer son histoire. Ses deux parents sont morts quand elle était encore enfant, probablement des suites d'une maladie opportuniste. Pindile elle-même est née avec le sida. Profondément bouleversée par la nouvelle, la jeune fille refuse pourtant de se taire. Elle choisit au contraire de dévoiler publiquement son statut sérologique. Dans les médias, lors de conférences en Afrique du Sud et à l'étranger, elle clame qu'on peut avoir une vie positive et une sexualité épanouie, même en étant porteur du virus du sida.
Les gens pensent toujours que je suis une toute petite personne très inhibée. Mais je ne suis absolument pas comme ça. Je suis tout sauf ça. Je rencontre beaucoup de séropositifs et nous sommes jeunes, nous sommes fous, on rit, on vit et nous sommes extravertis. Et pourtant, les gens ont toujours des préjugés. C'est pour ça qu'il y a de nouvelles infections, parce qu'ils ont encore en tête cette image d'un enfant africain pauvre et malade en train d'agoniser dans une campagne reculée. Et moi, je veux dire que le VIH me ressemble et vous ressemble. N'importe qui peut être infecté et tout le monde doit se protéger tout le temps.
Faire tomber les clichés sans banaliser, c'est tout le défi de Pindile. Ultra connectée, elle parle avec la même franchise de ses épreuves et de ses victoires sur les réseaux sociaux. À travers son projet Rebranding HIV, elle aide aussi les jeunes séropositifs à exprimer leurs souffrances ou leurs difficultés pour mieux s'accepter et pour mieux vivre avec le VIH.
Souvent, les jeunes qui sont nés avec le virus du sida me racontent qu'ils ne savent pas comment gérer certaines situations dans la vie quotidienne. Ils ne savent pas comment aborder une relation amoureuse, par exemple. C'est toujours un combat pour eux. Alors, je veux leur donner des outils pour vivre avec le VIH au quotidien, pour les aider à parler avec leurs employeurs, par exemple. Mais aussi pour les pousser à mieux se nourrir, à avoir un mode de vie équilibré. C'est une approche globale, plus sensible de l'individu qui va au-delà de la prise quotidienne de médicaments. Il faut s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils prennent soin d'eux.
À l'avenir, la jeune fille espère voir naître une génération consciente et responsable, capable d'enrayer la progression du sida.
Il faut s'adresser à la génération qui vit aujourd'hui avec le VIH. C'est une méthode de prévention à laquelle on s'intéresse encore trop peu parce qu'on pense qu'il suffit de distribuer des antirétroviraux pour régler le problème. Moi, je pense que non, ça ne suffit pas. Ces gens ont énormément d'émotions à gérer et ce sont eux qui risquent de transmettre le VIH. Donc, s'ils ne vont pas bien, comment peut-on espérer empêcher de nouvelles infections ?
Le constat de Pindile est clair. Les jeunes séropositifs sont les mieux placés pour parler du sida, même si ce n'est pas toujours facile à assumer quand on a 25 ans.
J'espère que dans les années qui viennent, il y aura de jeunes leaders qui s'approprieront en quelque sorte le VIH et qui deviendront le visage du sida. Comme ça, les autres jeunes, sans forcément révéler publiquement leur statut, pourront en parler plus facilement autour d'eux, dans leur propre environnement. Et ça, c'est vraiment important.
Cette semaine, Pindile Pindilé s'envole pour New York. Elle doit parler lors du gala de charité de la fondation Keep a Child Alive pour mettre une histoire sur des statistiques, alors qu'en 2013, plus de 240 000 enfants sont nés avec le sida à travers le monde.
Lisa Fabian pour ce portrait de Pindilé Sitolespong à Johannesburg.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde. Sur France Inter.
Une histoire dans le monde. Bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
La Grande-Bretagne a décidé de ne pas financer les opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée organisées par l'agence européenne Frontex.
Et oui, c'est une décision très chargée symboliquement, car ces sauvetages en mer qui ont permis de sauver rien que cette année, 90 000 personnes, seraient selon les autorités britanniques un encouragement à l'émigration clandestine. Alors, on va essayer d'être objectif. D'abord, il faut dire que les Italiens et leur marine nationale ont été admirables devant le flux de réfugiés qui ont tout risqué, y compris leur vie, pour rejoindre l'Europe. Depuis janvier, ce sont 160 000 personnes, hommes, femmes et enfants, qui ont ainsi été accueillis ou recueillis par l'Italie. Aucun autre pays en Europe, peut-être la Grèce, n'a pu se mobiliser à ce point, tant en secours d'urgence qu'en moyens déployés. Mais l'Italie a annoncé début octobre que cette opération, qui s'appelle Mare Nostrum, s'arrêterait dans quelques jours, fin octobre. Tout simplement faute de moyens, l'Italie seule ne peut soutenir pareille charge, c'est à l'Europe de prendre le relais.
Et est-ce qu'elle l'a fait ?
Oui, dès le 1er novembre, une opération pan-européenne appelée Triton disposera de 3 vaisseaux patrouilleurs et de 2 avions de recherche. C'est cette opération que la Grande-Bretagne a décidé de ne pas soutenir financièrement. Pourquoi les Britanniques ont-ils pris cette décision ? Eh bien, il suffit de regarder les résultats des européennes de mai dernier. Le parti anti-européen UKIP, UKIP, a obtenu plus de 26% des voix, c'est-à-dire qu'il est le premier parti de Grande-Bretagne. Et depuis, sondage après sondage, il ne cesse de grimper. Dans le dernier publié ce matin, ils sont à 20%, alors que les prochaines élections législatives auront lieu dans quelques mois. C'est la panique à Westminster.
Et c'est cette panique, j'imagine, Anthony, qui est la... Qui a conduit à
cette décision. Oui, oui, exactement. Et c'est toujours, mais c'est surtout le signe que la Grande-Bretagne s'éloigne petit à petit de l'Union européenne. Une décision, vous l'avez dit, purement électoraliste, mais qui en plus dessert les intérêts de la Grande-Bretagne. Car elle n'arrêtera pas le flot de réfugiés, vous l'imaginez bien. Ils prendront tout simplement une autre route. Par contre, cela signifie que Londres est prête à accepter la mort par noyade de milliers d'êtres humains pour dissuader les autres. Enfin, je voulais ramener un petit peu de raison dans cette masse de chiffres et de décisions péremptoires qui ont des conséquences dramatiques. 200 000 personnes d'ici la fin de l'année auront débarqué sur les côtes de l'Italie. À peu près autant franchiront les frontières grecques, roumaines ou bulgares. En tout, 400 à 500 000 réfugiés pour 2014. Nous sommes 500 millions en Europe. Cet afflux exceptionnel, je le rappelle, représente 0,1% de la population européenne. En clair, il faudrait 1000 ans à ce rythme pour remplacer la population européenne. En clair aussi, c'est un choc que nous pouvons parfaitement assumer sans crainte pour notre mode de vie. Nous l'avons déjà fait il n'y a pas si longtemps. Dans les années 90, l'Europe a encaissé le même nombre annuel de réfugiés venus d'ex-Yougoslavie. Donc, non seulement nous pouvons le faire, à savoir accueillir ces réfugiés, mais nous l'avons déjà fait et plusieurs fois dans notre histoire, tant en France qu'en Europe. Dire autre chose, parler d'invasion ou de suicide français ou non d'ailleurs, c'est un mensonge pur et simple.
Anthony Bélanger, merci et bonsoir à Pierre Veille.
Bonsoir Nicolas Demorand.
Le téléphone sonne, c'est dans une grosse vingtaine de minutes consacrée ce soir à...
L'art contemporain, effervescence, frénésie, passion. L'art contemporain se porte bien, il ne connaît pas la crise, on l'a vu. Lors de la FIAC au Grand Palais, il y a quelques jours, 75 000 personnes en 5 jours. Pourquoi cette vigueur du marché de l'art contemporain ? On attend vos appels au standard du téléphone sonne 01 45 24 7000.
Et si vous voulez passer par le mail,
oui, bien
franceculture.fr.
Sûr.
Et si vous voulez passer par Twitter, le hashtag est Telson.
Franceinter.fr.
Voilà, Franceinter.fr. Et vous pouvez même aller sur la page Facebook de l'émission.
Merci,
merci Pierre et à tout à l'heure.